Vous écoutez
RMC.
RMC.
Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Ti rendi conto se tu posi una questione a un supporter italiano che ha da qualche anno? Ciao, grazie ancora e congratulations per la sua carriera.
I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, l'after continue jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Nous sommes en direct dans l'after, premier podcast de France. Je rappelle, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Florent Gautreau est là. Salut Florent.
Salut à tous. Samy Dubémol, bonsoir.
Et Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
1-0 pour Lens face à Lyon. Bien sûr, on va analyser ce match dans le détail. On parlera également des autres résultats du jour, de Monaco, de Ben Yedder qui se réveille, qui bat Nantes 4-1. On pourra parler de Toulouse qui bat Montpellier 4-2, ou encore de Lille qui a perdu à Lorient avec encore un festival Le Bris sur le terrain et sur le banc. 32-16 pour tous ces sujets. Hashtag RMC Live. Direct Studio, notre appli RMC, vous RMC et RMC Sport, les deux vous permettent d'envoyer les messages sur Direct Studio. C'est pratique. Les Lyonnais sont déjà là, très en colère. On va parler de Lyon, bien sûr, de Lens dans quelques instants. Et les gars, avant vos 3 points, il y a également du rugby. Tout à l'heure, il y a eu un Toulouse-Montpellier en foot, c'est Toulouse qui a gagné. Là, il y a un Montpellier-Toulouse en rugby. Et pour l'instant, c'est Toulouse qui pourrait gagner, Julien Landry. Bonsoir.
Exactement. 2 points d'avance pour les Toulousains. Gilbert, bonsoir messieurs. Il reste 8 minutes à jouer au GGL Stadium. 19 pour le Stade Toulousain, 17 pour le MHR. Duel de buteurs, 100% pour Jaminet pour le moment, mais 3 sur 5 pour Louis Carbonel, dont une pénalité qui a heurté le poteau, qui empêche les Montpellierains d'avoir repris le score. Mais les Montpellierains sont à l'entrée des 22 mètres du Stade Toulousain, lancé à suivre pour le MHR, avec peut-être une opportunité bientôt de reprendre l'avantage au score. 8 minutes à jouer encore au GGL, 19 pour Toulouse, 17 pour Montpellier.
Et match en cours toujours en Espagne, Real Osasuna, un partout à 8 minutes de la fin. Donc vous l'avez entendu il y a quelques instants, Benzema a raté un pénalty. Les 3 points à 22h40, c'est parti, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Florent, quels sont tes 3 points de débat après ce match?
D'abord, j'ai bien aimé, dans le premier point, ce match de coupe entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Nationale, où l'équipe de Nationale s'est bien défendue, a fait des efforts pour essayer d'exister face à une équipe qui a eu du mal à marquer, mais c'est le lot contre les petites équipes. Donc, et plus sérieusement.
Il n'est pas souvent là le dimanche, mais il démarre fort quand même.
Et plus sérieusement.
Non, tu ne dois pas enchaîner par plus sérieusement. Ce que tu as dit là était sérieux.
Oui, c'est vraiment la sensation que j'ai eu en regardant le match. Mais je dirais que j'ai aussi vu le foot d'avant contre le foot moderne, ce qui est terrible pour Lyon, parce que j'ai vu un foot moderne, et on en reparlera, mais un foot où ça court, parce que c'est pas ultra compliqué, hein. Ça court beaucoup, 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 pas que, on y reviendra. Et puis en face, un foot de Papito avec, je vais prendre Cherki juste comme exemple, c'est un peu symptomatique, le 10 à l'ancienne, assis dans son fauteuil, qui essaie de faire 2-3 roulettes,
oui, et
de lancer
dans. Sauf que lui, il est jeune et qu'il chouine sans arrêt parce qu'il veut jouer.
Non, mais en l'occurrence, donc, lui, c'est
il faut qu'il retourne sur le banc et qu'on ne le voit plus avant longtemps, ou qu'il apprenne réellement ce que c'est que le haut niveau.
C'était le foot d'avant.
Parce que, moi, si je suis lyonnais, franchement, je suis en colère depuis le temps qu'il casse les bonbons pour être titulaire.
Et donc
Gilbert, voilà, tu auras noté que malgré mon agacement, j'ai su contrôler le
bravo, quelle maîtrise de
l'eau continue.
Match de coupe, foot d'avant, foot moderne. Le deuxième, c'est Lyon, quand même, parce que je pense qu'on va y revenir longuement. Lyon tristesse, Lyon déprime, plein de choses à dire, y compris sur Boss, parce que je trouve qu'il n'a aucune prise sur cette équipe. Et là, maintenant, après lui avoir laissé du temps, c'est compliqué. Et puis le troisième point, c'est un point sur les collectifs, et je vais rapprocher Lorient, Lens de Lorient, de Marseille, de Rennes, où j'ai pas forcément envie à chaque fois de sortir, tu sais, quand on fait les évals, un joueur ou deux, j'ai l'impression de collectif. Forts qui ont compris que l'un doit être au service de l'autre,
tu vois,
au service de l'un.
Tu pourrais mettre en avant.
Là, moi, ce soir, j'ai pas envie de sortir un mec. J'ai 11 mecs. On peut me dire Abdoul Samed, c'est bien. Seco, c'est bien. Moi, je vais t'en sortir un. Dans ce cas-là, ils ont trouvé un gardien. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont fait une partie de la saison l'an dernier avec Leca, qui n'était pas suffisant pour cette équipe-là. Ils ont trouvé un gardien qui prend quelques risques au pied, mais qui est fort au pied aussi, Samba. Mais sinon, non.
Il fait des arrêts à une main.
Ouais. Collectif. Le collectif.
Il y a chez lui une décontraction qui pourrait lui jouer des tours, mais globalement, il maîtrise quand même beaucoup de choses.
Et le jeu au pied, notamment. C'est magnifique, sous pression.
T'es toujours resté 3 points, là.
Voilà. Le collectif.
Très bien. Daniel, tes 3 points.
Le premier est tellement mérité pour Lens, et j'insiste, prévisible. Prévisible, parce que dès le début, en fait, tu sens qu'à moins d'un miracle, Lyon peut pas s'en sortir. Lens est 100% au-dessus, techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement.
Juste parenthèse, le pire dans le foot, c'est que servir au match de coupe, c'est que même malgré tout ce que tu dis, tu te dis à la 80e, il y a 0-0 et Lyon sur un malentendu peut marquer. C'est le foot est quand même incroyable. Ce match-là, jamais Lyon va le gagner.
Sauf que ça aurait été un braquage, comme on aurait parlé de braquage. Donc tellement mérité, j'insiste, prévisible. Je disais prévisible et donc pas normal, parce que c'est pas normal pour moi que l'OL débute un match qu'on envisage perdu, que tu sois au coup d'envoi d'un match de Ligue 1, alors que Lyon ne joue pas contre le PSG ou l'OM machin, et tu te dis Lyon c'est en dessous, ils vont perdre. C'est pas normal. C'est tout le club qui doit se remettre en question si on a cette impression-là, impression qui s'est vérifiée. Et donc, la première étape, ce sera le premier fusible, c'est Boss qui va sauter parce que l'histoire, elle est terminée. Mais attention, ça n'est pas le seul problème. Kevin, avant de partir, a dit un truc important. Je suis impatient de voir ce que fera le successeur parce qu'il va être emmerdé, parce qu'il y a beaucoup de lacunes, très grosses lacunes dans cet effectif. Et le point 3, bah, je ne sais pas si on aura le temps de parler des autres choses, mais il y a Lorient évidemment, il y a Monaco, il y a un trou quand même un peu qui s'est fait dans le haut du classement maintenant. Monaco semble être la seule équipe capable de combler un peu ce trou, parce que derrière, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Monaco, Rennes vont essayer de colmater, mais ça ne va pas être évident. Enfin, c'est les deux seules équipes, Monaco-Rennes, que je vois capable de revenir dans le top et de troubler Lorient et Lens si la belle histoire continue pour ces deux clubs, quoi.
Alors là, d'ailleurs, après 9 journées, donc on a évidemment Paris en tête, Marseille deuxième. Ensuite, donc 3e Lorient, 4e Lens. Voilà, et 5e Monaco qui reste sur 4 victoires d'affilée, mine de rien, les Monégasques. Bon, attaquons par Lens. Parce que bon, le dossier lyonnais, on va l'aborder, hein, mais là, faisons un peu de positif quand même. Parce que c'est vrai que c'est une équipe. Au fur et à mesure des minutes, tu dis, mais c'est franchement, ce serait d'une cruauté incroyable qu'ils n'y arrivent pas, quoi. T'avais l'ambiance, t'avais l'envie, t'avais la fluidité du jeu. Il y avait à peu près tout sauf la finition, quoi.
La leçon sur ce que je dis sur le collectif qu'on a vu dans certaines compètes, comme avec l'Italie,
à l'Euro.
Cette leçon où tu trouves une équipe souvent avec des entre guillemets des sans grades, des moins gradés que les stars qu'on connaît, qu'un entraîneur et un projet quand même. Je trouve que c'est une leçon pour Aulas. T'as un projet de club, directeur sportif, entraîneur, ça en a déjà raconté ça mille fois, mais qui se traduit sur le terrain. C'est-à-dire que tous ces gars-là, ce Seco là, pour lesquels ils ont fait cette cérémonie de la signature, ils sont tous des morts de faim. T'as vu Facundo Medina sur le but, tu vois. C'est ce collectif dont je parlais, dont tu dois pas ressortir un joueur qui se bat à fond, qui met tout ce qu'il a dans les tripes.
Parce que quand ils prennent Peter Boss, c'est cet esprit-là et ce jeu-là qu'on doit voir.
Ouais, mais tu vois comme quoi tu l'improvises.
Et qu'on voit pas du tout.
Tu le fais pas en un claquement de doigts. C'est la politique sportive aussi derrière.
Ça fait des années qu'à Lyon la politique sportive elle est. Mais restons sur Lens parce qu'on aura le temps d'hurler sur l'OL. Voilà.
Sur Lens, je trouve
que Lens fait de bien.
Ce qui est beau, c'est que la politique sportive justement trouve son incarnation, garde son incarnation sur le terrain avec Hayes. Et c'était assez paradoxal et marrant de voir les deux coachs. Un qui est actif sans en faire trop en permanence et l'autre qui est assis de plus en plus profondément sur son banc et qui ne réagit plus. Tu as une image qui est terrible pour les deux équipes. Mais vraiment, j'insiste sur le fait de courir et de faire les efforts en permanence, quitte à s'épuiser, et à la 65e, tu changes de joueur.
Arrêtons-nous là-dessus, parce que
c'est le nouveau foot.
Ah, exactement, c'est le nouveau football, et arrêtons-nous là-dessus un instant, si tu veux bien, parce que ça, c'est intéressant. Et dans ce nouveau foot, les courses, les efforts, la générosité, le fait de donner toujours une ou deux solutions, trois solutions aux porteurs, ça sert également parfois à compenser les erreurs techniques. Parce que si tu regardes bien, notamment dans les phases de conclusion aujourd'hui, Lens a parfois été maladroit. Par exemple, tu fais un parallèle avec le PSG où il y a beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de générosité, où tactiquement il n'y a pas grand chose. Eux, ils s'appuient sur une qualité technique au-dessus de la moyenne et des individualités qui vont leur faire la diff. Lens va faire autre chose. Ils ont moins de qualité. Parce que c'est vrai que parfois les passes, elles sont. Alors, il y a des choses bien. Attention, je suis pas en train de dire que c'est des manchots. Loin de là. Mais s'ils avaient avec ces efforts-là, s'ils avaient en plus avec ce qu'ils produisent, s'ils avaient en plus la qualité technique, bon, on me dira j'exagère, c'est pas Lens. Ce serait une équipe de première ligue, ce serait une équipe top niveau. Mais bon, voilà, ils identifient qu'il y a pas de vedette dans cette équipe. Il n'y a pas de gros stars, il n'y a pas de gars à 30 millions ou à même à 20, 25 millions. Mais ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils compensent dans ce qu'ils n'ont pas par ce jeu, par cette tactique, par cette générosité et détermination, moi je trouve que c'est absolument admirable. C'est pas la première fois qu'on le dit. Maintenant, c'est rare que Lens joue dans le match du dimanche en prime time. Donc ça permet de le dire, ça permet de répéter que ce qu'ils font, on attend Lorient, parce que Lorient, ils ne l'ont toujours pas fait. Encore que Lorient, c'est peut-être leur plus mauvais match de la saison aujourd'hui. Donc ça aurait été dur de les complimenter aujourd'hui. Mais Lens, c'est un match avec un peu d'habileté, il est bouclé 3-0 ce match. 3-0, ça peut être une humiliation terrible. D'ailleurs, si les Lyonnais attendaient une grosse raclée pour virer leur entraîneur, ben ils l'ont ce soir, la grosse raclée. Ça vaut 4-0 ce match, hein. S'ils sont habiles.
Ah bah dans le jeu, jeu, c'est humiliant.
C'est le 1-0, le 4-0, ouais. C'est la même ce soir. Il faut vraiment que les Lyonnais analysent ça comme une vraie déculottée, ce qu'ils ont pris ce soir, hein. Vraiment. Ouais,
et puis c'est Lopez aussi qui est là, qui est
meilleur homme lyonnais, ce qui est déjà évidemment toujours dans ces cas-là.
En fait, Lens, qu'est-ce qu'il leur manque juste? Parce qu'on en fait beaucoup sur Openda, machin. Enfin bon.
Non, un peu de la finition.
Il manque un vrai buteur, un mec plus efficace devant.
Encore une fois, s'ils ont ça, c'est plus Lens après.
Oui et non, parce que c'est vrai que tu pourrais avoir. Il se trouve que ces équipes-là, et c'est le corollaire aussi aux courses. Pour tous ceux qui le savent, même le dimanche matin, quand tu cours beaucoup, quand tu es attaquant, tu es moins lucide dans la finition. Et moi, je pense que Sotoka, par exemple, ou même Openda, qui est très bon, bah, ils sont très bons, justement, notamment dans ce qui est construction et dans ce jeu formidablement. Il y a Sotoka qui va faire une récup incroyable à un moment donné. Après
Sotoka, il est toujours dans ses 20 mètres pour récupérer, voilà. Et puis il repart.
Mais derrière, évidemment, à un moment donné, tu le payes. Effectivement, ça manque peut-être un petit peu de finition. Tu te rends compte que sur l'action, la première, c'est Medina qui vient faire, qui traverse le terrain, qui se retrouve en position de finisseur. Bon, c'est pas étonnant. Et encore,
sur le contre emmené par Sotoka.
Ouais. Bon, c'est pas ridicule. Bon, voilà, il y a Lopez qui est un très bon gardien, il marque pas.
Mais c'est vrai que c'est. Fais la fine bouche, tu dis, bon, il faudra faire un ballon piqué au-dessus et tout. Mais alors là,
parce que c'est pas l'attaquant.
Ça devient grande
et
classe.
Et en plus, il se trouve que sur cette action, c'est pas de chance, c'est pas entre guillemets, c'est pas un des attaquants, c'est pas Sotoka, c'est pas Openda qui s'est retrouvé à cette position-là, c'est Medina. Bon, voilà. Mais sinon, si tu veux, il y a un truc qui est génial avec ce genre d'équipe, c'est que, bien sûr, il manquera toujours quelque chose, t'as raison, parce que économiquement, il leur manquera peut-être un peu d'argent pour avoir ce grand attaquant, par exemple, mais c'est aussi la communion avec le public, parce que c'est pas seulement parce que c'est Lens et qu'il y a un très bon public, bien sûr que c'est le cas.
Mais tous les publics se réveillent face à un jeu pareil.
Tous les
publics s'enflamment.
Tu te régales.
En plus, t'as du monde, une vraie tradition de stade, c'est deux fois
mais
mieux.
Mais tu sais, je parlais de Lorient parce que c'était le cas cette année, mais de Marseille. Quand tu as un collectif qui se dépasse, globalement,
tout
avec le public,
marche,
ça se passe
ça
bien.
Ça suit, bien sûr.
Il se trouve qu'à Lens, il y a en plus une culture, un ADN dans les tribunes qui fait que ça marche particulièrement bien. Mais là, tu regardes le match, effectivement, tu te régales.
Pablo est là au 32-16, supporter lensois. Salut Pablo.
Salut les gars.
Salut Pablo.
Bon, t'as douté à la fin, tu t'es dit mince, on va pas y arriver?
Ouais, carrément. Moi, j'étais pas serein parce que c'est peut-être mon regard de supporter, hein, mais je me dis, on aurait carrément pu se prendre un but en contre et puis et repartir un peu la queue entre les jambes.
Ah, tu as redouté le braquage?
Ah ouais, carrément. Mais je pense que, enfin, quand par exemple en premier match de la saison contre Brest, on gagne 3-0, on finit à 3-2, donc c'est Et puis c'était pas la première fois pour Lens. J'ai vraiment eu peur à un moment qu'on se prenne un vieux but en contre et que voilà. Donc vachement satisfait finalement du résultat là. Et puis de tout le chemin parcouru quoi. Parce que quand je repense à là où on était il y a 3 ans, me dire que à 10 minutes de la fin un 0-0 contre Lyon c'était un mauvais résultat. On a quand même fait du bon chemin.
Exactement, c'est vrai ça. T'imagines que le 0-0, t'aurais dit merde, c'est un échec pour nous ce soir face à l'OL. C'est fou. Flo disait tout à l'heure que c'est difficile quand tu regardes un match de Lens comme ça de dire tiens, j'ai envie de mettre ce joueur en avant, j'ai envie de dire que ce joueur est meilleur que les autres. Est-ce que toi qui es supporter, tu éprouves ce sentiment aussi? Est-ce que ce soir, tu dis qui t'as envie de mettre en avant? T'as l'activité de Cabot sur le côté, t'as Sotoka qui fait des kilomètres avant-arrière sans arrêt. Comment on fait quand on est supporter de Lens?
C'était je regardais le match en me disant tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter à l'after tout à l'heure. Je cherchais quel joueur sortir, je suis vachement content que ce soit Medina qui aille chercher le penalty parce que il est génial dans son apport offensif et tout ça, hein, mais n'empêche qu'il foire deux buts tout fait quand c'est à lui de marquer. Du coup je me dis c'est quand même pas mal qu'il aille chercher, donc je pense que la rage qu'il montre derrière le penalty, ça, je pense que lui intérieurement il se dit qu'il a un peu rattrapé le coup quoi.
C'est sûr. Mais après, c'est vrai que tu peux à la fois sortir personne ou sortir tout le monde. Parce que ce que t'as fait, Daniel, en commençant, avec Cabot et Sotoka, tu peux le continuer. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un en plus qui est en dessous. Parce que tu peux pas.
Et paradoxalement, j'ai peut-être trouvé Fofana moins présent.
Moins présent, mais quand même dans tous les relais. Il passe. Oui, non, et c'est ça, justement, dans les
matchs, mais aussi d'habitude, il est tellement, il est tellement impactant, tu le vois tellement que là, je l'ai un peu moins vu.
Peut-être, mais après, il y a aussi les mauvais, alors pour le coup, les mauvais choix de, en termes de finition, je parle pas de la finition devant le but, mais de la dernière ou l'avant-dernière passe où Fofana se place souvent très bien. En retrait notamment, et où il n'a pas été servi ce soir, plusieurs fois.
Où il aurait pu mettre la frappe.
Ah oui, parce que c'est lui qui, à un moment donné, il y a une frappe ça doit être Pereira da Costa qui frappe sans angle et qui aurait pu lui mettre en retrait, et c'est arrivé plusieurs fois. Et tout le monde sait que Fofana, ils sont bien placés quand même à la réception. Mais après, c'est ce que tu faisais avec. Je parlais d'un collectif parce que Abdoul Samed, c'est énorme. Danso derrière. Y compris sur les
alors justement les trucs, parce que il y a quand même
Samba, c'est très bon,
et puis même quand ils font rentrer des mecs à la fin
je trouve ça presque rassurant que
c'est des bons joueurs, hein.
Ah ben moi tu sais ce qui m'a frappé c'est quand ils font rentrer Saïd et Claude Maurice, tu vois que les mecs les autres ont couru batterie vide, tu fais rentrer et effectivement t'as quand même de la qualité. Et à l'inverse, quand Lyon fait sortir Lacazette, certes, faut qu'ils
vont rentrer des gamins.
Ils vont rentrer des gamins, tu dis c'est pas là qu'ils vont renverser le match.
Des gamins.
Et tu te dis finalement le bon lance, même le bon lance m'a plus fait rêver que le, même si j'adore
pas bon, les gars, de gamins à Lyon, qu'est-ce que c'est quoi ce club?
C'est terminé à Madrid, un partout entre le Real et Osasuna, les mecs d'Osasuna ils sont ravis. Et puis terminé au rugby également entre Montpellier et Toulouse, Julien.
Ouais, carton plein pour les clubs toulousains aujourd'hui contre les clubs montpellierains. Victoire du Stade ce soir sur la pelouse du MHR, 19-17. Les montpellierains ont eu les munitions en fin de match mais ils ont mal négocié. C'est la dernière touche. Victoire toulousaine 19-17.
Il y avait le même match en foot.
Exactement. Et les Toulousains qui ont terminé à 14 après le carton rouge reçu par Meafou. Mais ça reste quand même une victoire du Stade 19-17.
Merci Julien. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Oui, il y a un truc. Bon, l'année dernière, on peut se mettre à peu près d'accord pour dire que, on va dire que les deux qui sortaient du lot à Lens, c'était Klaus et Fofana. Là, il y a plus Klaus.
On parlait souvent d'eux.
Voilà. Malgré tout, il continue à turbiner. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes l'équipe, regarde les noms que tu cites, Flo. Normalement, c'est les mecs, tu te dis, c'est le joueur de Ligue 1, quoi. Aïdara.
T'as vu qui est rentré?
Claude Maurice.
Un titulaire, indiscutable.
Qui avant était titulaire.
Qui était censé être le remplaçant de Klaus.
Frankowski, ce soir, il est remplaçant. Voilà, il rentre. C'est le turnover permanent. C'est-à-dire, c'est le système qui fait que.
Donc, en fait.
Après ce que tu dis
sans
là.
Sans grande star. Je voulais parler un peu d'aise, quoi, en fait. Parce que t'as l'impression.
Un coach
peut avoir une vraie influence.
Ce que tu dis là, c'est l'enthousiasme du dimanche et du week-end. En disant, il n'y a pas de star, c'est le travail de l'entraîneur et tout. On est tous très contents, on s'emballe, c'est le week-end. Et c'est peut-être la limite qu'après, on constate en semaine. Parce que là, imagine que le championnat s'arrête maintenant. Lorient, Lens nous ont enthousiasmé toute l'année. On a kiffé. C'est à leur tour d'aller tester la Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'ils font en Coupe d'Europe? C'est notre grande question sur la valeur de la Ligue 1. Alors, il y a deux mondes. Il y a le monde du week-end où on est tout content de voir que Lens, avec des joueurs pas super cotés, mais une danse dans le jeu à Lyon, qui est censé être un de nos gros clubs. T'as la tête qui est un peu chamboulée avec toutes ces données. T'attends les matchs du milieu de semaine maintenant. On va voir encore cette semaine ce qui va se passer. Si on reprend des claques comme sur les semaines précédentes, alors on sera déprimé le jeudi, content le week-end parce qu'on voit des matchs de Ligue 1.
On le sait déjà.
Oui, la différence avec il y a 10 ans, c'est que le week-end, tu te faisais chier.
Ouais.
Et la semaine, tu prenais des claques. Là, le week-end, on s'amuse plutôt bien. On voit des bons matchs de Ligue 1. Et la semaine, tu prends des claques. Bon, au moins, t'as un plaisir, un coup sur deux.
Gilbert, il prend aussi des claques le week-end.
Non, là, tu te trompes, il ne faut pas s'inquiéter.
Non,
il ne faut pas s'inquiéter. T'es pas au courant.
On s'inquiète
pas.
Il est serein.
On s'inquiète pas.
Très bien.
On s'inquiète pas. 9 matchs, pas de victoire, mais on s'inquiète pas.
Il a bien résisté au bashing arbitrage.
La fameuse voiture à friction.
Ouais, non, mais là, arrête, Gilbert, c'est horrible. Arrête. On a 9 matchs, vous n'avez pas gagné un match. Alors, hier, ok, vous
faites fourrer. Bon, on parle de Lens, là, pourquoi vous voulez tout de suite.
Je voudrais quand même rectifier, c'est plutôt la voiture affliction, en ce moment. Si je puis me permettre.
Pablo, un truc à rajouter?
Du coup, juste deux trucs vite fait. Moi, c'est un peu dommage pour l'année dernière parce que je suis sûr qu'il y avait la place pour la Conference League pour nous et que c'était quelque chose qui correspondait parfaitement à Lens cette saison.
Et tu veux dire plus que Nice? Tu te serais plus vu à ta place de Nice?
Je pense, ouais. J'ai eu la chance d'assister à deux matchs au Stadio Olimpico l'année dernière. Et au niveau ambiance, je pense que Bollaert, on aurait pu faire quelque chose de bien sympa pour le retour de la Coupe.
Ah, bah ça oui. Et dès le début de la saison, Pablo, j'ai dit, si vous gardez Fofana, Lens, c'est top 5 au bout de la saison. Je maintiens de plus en plus. Hein.
Mine de rien, c'est pas le joueur qui ressort le plus
de ce soir. Ouais.
Et c'est plutôt rassurant pour moi parce que l'année dernière, on parlait beaucoup de Fofana dépendance et de qu'est-ce qu'on fera quand il se barre. Et là, quand on voit un match comme ce soir, je suis plutôt rassuré. Alors après, est-ce que c'est peut-être le niveau de Lyon après de l'autre côté hein, mais...
Et je t'ajoute un truc, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez fait une saison l'an dernier remarquable avec un gardien qui n'avait pas, à mon avis, le niveau pour cela, à savoir le cas, enfin, qui ne l'avait plus, et plus le type de gardien qu'il faut aujourd'hui, c'est plus ce gardien-là. Samba est le gardien moderne qu'il faut, entre guillemets, et vous avez aussi gagné sur ce poste-là, ce qui veut dire que tu as encore des gains,
t'as des gains
de productivité encore.
Parce que même la frappe lyonnaise contre, qui était déviée là, vers la 30e minute.
Ah, la frappe de la Gazelle qui redescend sous la barre là.
Mais elle retombe entre deux Lyonnais et en fait, je sais pas, même pour le coup sur cette action-là, j'ai même pas eu un frisson quoi. J'ai pas eu peur. Je me dis les Lyonnais, ils sont pas.
Non, j'ai plus eu un frisson sur son contrôle un peu foireux. Ouais. Il est tellement sûr au pied qu'il attend très très tard avant de faire sa relance même sous pression.
Pour l'instant, il s'est rien passé. Il gagne de l'expérience.
Merci Pablo.
Merci à vous, salut. Merci.
Bonne soirée, à très vite. Dans un instant, Martin, supporter lensois, et ensuite on attaquera le dossier lyonnais. Beaucoup de supporters lyonnais qui nous attendent ce soir.
Et là, ça va gueuler.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là jusqu'à minuit, 23h01, la Ligue 1 est au programme ce soir avant une grande semaine de Coupe d'Europe qui repart dès mardi dans l'after. On ira jusqu'à minuit et demi toute la semaine comme d'habitude. Vous avez maintenant l'habitude lors de soir de Coupe d'Europe.
Moi j'ai pas encore l'habitude, tu vois. Quand tu l'as dit, ça m'a surpris.
Du coup, ça te. Ouais, mais tu te prépares.
Oui, bien physiquement. Sûr. Bien sûr. Ouais, je suis pas en grande forme, je dois dire.
Mardi, 18h.
J'ai l'impression qu'il y a tous les virus de la Terre qui traînent en ce moment.
Mardi, 18h45. OM Sporting, malheureusement sans spectateur. Et mercredi, Benfica PSG. Donc c'est semaine de franco-portugaise.
Et mardi, après, il y a un gros match derrière.
Inter Barça.
Voilà. On fait aussi.
Non, ouais, bien sûr. Ouais. Et jeudi, nos quatre clubs qui vont peut-être nous régaler, on l'espère, ou peut-être nous faire pleurer, comme souvent. On verra. En tout cas, on sera là. Lens, toujours, avant de parler
Nantes,
de Lyon.
Quand tu vois Nantes aujourd'hui, là.
Oui, ça va pas. Non. Martin, bonsoir.
Oui, bonsoir, messieurs.
Supporter lensois, t'étais au stade ?
Oui, j'étais au stade, je viens de sortir à l'instant.
Bon, alors l'ambiance, comment ?
Bah écoutez, l'ambiance, très bonne ambiance, comme d'habitude, qui suis fermé depuis maintenant quelques matchs, mais je voudrais ce soir mettre en avant deux points principaux qui sont. J'ai trouvé un Lyon vraiment. Je vais dire inoffensif avec une frappe, une pseudo-frappe contrée qui touche la barre. Mais j'ai trouvé un Lyon vraiment Lyon qui est censé être un concurrent direct pour l'Europe. Je pense que Peter Bosch a quand même du souci à se faire. Et derrière, deuxième point, c'est quand même un Racing qui a montré une maturité parce que c'est vrai que c'était un match assez. Je trouve qu'on a quand même produit un petit peu moins de jeu, moins de folie ce soir. Mais on a quand même réussi à débloquer la situation.
Tu veux
avec
dire quoi
penalty,
que d'habitude, dans vos matchs d'habitude ?
Oui, c'est vrai que d'habitude, les pistons sont un peu plus remuants. Là, même si Cabo a fait un très bon match.
Cabo, il n'a pas arrêté. Hein.
Ah, mais Cabo a fait un très bon match. Mais
après, il y a Lyon qui n'a fait qu'un match défensif. C'est peut-être aussi une des raisons. Parce que les occasions, vous les avez eues. Hein, vous pouvez le gagner 3-0, le match. Hein.
J'ai pas cette analyse-là parce que c'est vrai qu'on a eu un quart d'heure un peu de folie vers la 60e avec quelques balles contrées, avec des corners, le stade s'est un peu emballé. Mais je trouve que voilà, on a su provoquer le penalty. C'est des matchs quelque part qui l'année dernière on n'aurait pas su les gagner. On aurait fait un match nul et là ce soir on arrive à prendre les trois.
Mais si Lyon était tellement acculé, vous avez tellement acculé Lyon très vite. Que Lyon s'est mis à défendre très tôt. Et c'est devenu, un match de coupe, c'est devenu une attaque défense, un truc un peu lunaire, parce que tout en s'attendant, comme disait Daniel, à ce que Lyon souffre, tu t'attendais pas à ce que ce soit.
Stop, Peter Bosz en direct. On va écouter évidemment la réaction du coach lyonnais.
Ouais, sur penalty, mais. Bon, là, je veux rien dire. Mais c'est dur, absolument. C'était un match dur aujourd'hui, il faut le dire. Lens, une bonne équipe, on sait, ils jouent avec beaucoup d'intensité. On a parlé là, ça, avant le match, et avec tous les absents qu'on a ce soir. Les joueurs, ils sont essayés. J'ai dit, c'était un match dur depuis le début. Lens, ils ont eu des occasions, il faut le dire aussi. Mais quand tu perds à la fin, comme ça, avec un penalty, c'est. C'est dur aussi.
Bon, allez, encore une réponse. Là, il nous refait le match qu'on a vu aussi. Alors, on entend pas malheureusement la question. C'est Peter Boss qui est en direct dans l'after.
Par rapport à la production globale ce soir, c'est Lens qui a eu le plus d'occasions. Est-ce que maintenant vous êtes inquiet?
Bon, c'est long la question là. Messieurs, il faut avancer.
Est-ce qu'il est inquiet? J'ai l'impression. La question.
Comme j'ai dit, aujourd'hui c'était un match dur depuis le début. On sait avant le match qui joue comme ça. Je suis sûr, surtout ici à la maison, chez Lens, beaucoup d'équipes, ils ont des problèmes comme ça. Et comme j'ai dit, les cas de fête ne sont pas tous les mêmes. Aujourd'hui, c'était différent comme par exemple contre Lorient, mais aussi différent comme contre Monaco où on a plus le ballon et nous-mêmes, on a eu des occasions. Aujourd'hui, c'était rare.
Et sur votre situation personnelle ?
Comment ?
Et sur votre situation personnelle, est-ce que vous êtes menacé ?
Ah, parce qu'ils se sont menacés.
C'est quoi menacé ?
Est-ce que vous sentez menacé de perdre votre poste ?
Ah ça, non, je ne suis pas. Toi ?
Bah, Lyon est un club ambitieux, qui a des équipes de suite, il y a quand même par semaine, il y a des raisons d'être inquiet, notamment...
Ah, il y a des raisons d'être inquiet, lui, répond le journaliste tout de même.
Moi non.
Bon, voilà. Bah, il n'est pas inquiet. Voilà pour.
Il n'est pas inquiet là. On est dans le Pinocchio de la semaine. Hein.
Oui, effectivement. Là.
Il est bien placé pour le Pinocchio de la semaine.
Il est disert là. Il
avec
voit,
Gilbert, là. Il y a la lutte pour le Pinocchio de la semaine. Hein. On n'est pas inquiet. Hein. Ah, quand même.
Bon, on revient à Lyon dans quelques instants. On était avec Martin. Martin, excuse-moi, mais tu me dis, ouais, j'ai retenu deux choses. Tu nous parles d'abord de Lyon. Parle-nous de Lens, hein. C'est ton club.
Ah oui, mais bien sûr. Lens a produit vraiment du beau jeu comme d'habitude. Maintenant, j'ai trouvé que sur ce match-là, on avait un adversaire aussi qui est un concurrent direct. Donc, on va pas se mentir, c'était quand même une belle équipe de Ligue 1. Mais c'est un Lyon que j'ai trouvé vraiment maussade. Je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les Lyonnais aujourd'hui. J'ai trouvé que bon, quelque part, c'était les deux équipes étaient un peu en observation en première mi-temps, ne se livraient pas de trop. Et on a su débloquer la situation avec un pénalty qui nous fait vraiment du bien et qui nous permet d'aborder le derby semaine prochaine. Je veux dire avec quand même 4 points d'avance sur le 5e, je crois, parce que ce soir Lorient nous devance. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un Lyon quand même assez maussade, avec un Racing qui est quand même dans la continuité des nombreux matchs qu'on a fait depuis quelques temps maintenant, avec des pistons qui sont offensifs, un Fofana qui confirme quand même avec sa prolongation. Et un Buxa, j'ai trouvé une entrée de Adam Buxa, le Polonais, assez intéressante.
Ouais.
Très, très encourageant pour la suite.
Qu'est-ce qui serait satisfaisant maintenant pour toi? C'est carrément essayer de jouer le podium, voir Lens en Ligue des Champions.
Lens en Ligue des Champions, je pense que c'est un petit peu ambitieux. Maintenant, une place pour l'Europe, je pense que le club ne s'en cache plus.
Mais un petit peu ambitieux quand tu vois aujourd'hui, tu dis Paris-Marseille, ok, mais derrière, la troisième place.
Ouais, je pense que des équipes comme Monaco qui ont fait un départ assez compliqué, je pense que Monaco...
Parce que quand tu les vois jouer, tu ne te dis pas que tu es au-dessus. Quand vous les avez tartés à Louis II, encore une fois
bien
cette année,
oui,
tu ne te dis pas que
oui.
Tu es au-dessus. Qu'est-ce que tu as à leur envier après tout?
En confrontation directe, on est au-dessus de Monaco. Maintenant, je trouve que j'étais dans le sud de la France cet été. Je suis allé voir Monaco. Ils ont quand même un effectif qui est assez avec Mbolo devant, avec Ben Yedder. Même s'ils ont perdu des mecs comme Diop, etc. Je trouve que Monaco sur la durée, un peu comme l'année dernière où on les prive de Ligue des Champions sur le dernier match. Je pense que Monaco sur la durée a quand même de quoi nous embêter. Mais effectivement, je pense que jouer l'Europe cette année avec une Europa League, ce sera quand même très bien. Faut pas oublier qu'on a joué quand même le fond de Ligue 2 il y a quelques années avec un président vraiment très controversé. Faut pas aller trop vite, même si bon, je pense que jouer l'Europa League cette année c'est dans nos cordes, on a un effectif pour.
Oui, c'est mieux, je pense que le club est plus structuré pour ça, évidemment.
Voilà.
OK Martin. Bah écoute, on vous souhaite à Lens. Et puis alors, moi j'aimerais bien quand même qu'on essaye de faire venir un de ces quatre, le président Gourlian. On l'a vu là ce soir, il faisait la bise à tout le monde et tout, il est bien et il a l'air de s'éclater.
Ouais, puis t'as une sorte de évidemment une pérennité, enfin une solidité sur la structure.
En revanche, on a vu Renault qui était au stade, il est fatigué.
Les supporters ne vont pas vouloir parce qu'on va les cramer encore.
Tu penses?
L'année dernière, c'est quand Ghisolfi est venu, derrière il y a eu 2-3 mauvais résultats qui, à mon avis, leur vaut l'Europe à la fin de l'année.
Il y a un truc juste. Peut-être. Pour revenir au match de ce soir.
Le Brice, on l'a pas cramé, le Brice.
Pas encore. Peut-être que ça y est, c'est la fin de la
Brice, quand il est venu, on n'était pas là, c'est nous.
Ah, c'est Thibaut Leplat ouais, et c'est ça. Génération After. Ouais, peut-être que Génération After, eux, ils
crament pas. Eux, ils crament pas. Non,
apparemment, ils crament pas parce qu'à 10 contre 11, il y avait des moyens de se cramer, quoi. juste pour revenir à ce qu'on a vu, puisque toi, le supporter, c'est assez marrant, il n'a pas tout à fait tort sur un point, je trouve quand même un peu froid. Quand il dit qu'en première période, il y a un round d'observation, moi, j'ai pas vu de round d'observation, j'ai vu une équipe qui bouffait l'autre. Mais c'est vrai qu'en termes d'occasion et donc de conclusion, Lens, c'est pas suffisant, on va dire, pour une équipe qui joue le haut de tableau, si on veut être exigeant, et on doit être exigeant avec cette équipe-là, vu son niveau. Mais il y a une leçon pour toutes les équipes, dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure sur les courses, et c'est la haute intensité notamment, c'est aussi l'envie de récupérer le ballon. La première envie d'un footballeur, quel que soit son poste, sa place sur les 10 joueurs de champ, ça devrait être, c'est une évidence, hein,
de récupérer le ballon.
De récupérer.
Charpie, il a pas cette envie-là, lui. Lui, il a envie qu'on lui donne le ballon et puis après, il joue avec.
Exactement. Et c'est pour ça que je te dis que c'était un peu frappant de voir ce fou, je dis foot d'avant, il y en a qui me mettent sur Twitter, ouais, Suodo, il faisait ça. Oui, non, mais je sais bien. Heureusement qu'il y a des gens qui imaginaient ce genre de foot avant, mais on en a pas eu beaucoup en Ligue 1 pendant des années. Et là, tu voyais des joueurs, quel que soit leur poste, qui, avant de penser à toute autre chose, pensent à récupérer le ballon. Mais
tout à l'heure, tu parlais de Klaus, Fofana a failli partir. Franchement, je crois qu'on aurait analysé ça comme une catastrophe pour Lens. En tout cas, c'est ce que je disais. Il faut surtout pas qu'il s'en aille. Mais Klaus aussi, hein, t'as dit tout à l'heure, il était super important. Cette équipe, elle fonctionne tellement avec cet esprit collectif insufflé par Francaise que quand quelqu'un part, pratiquement, on oublie un peu. Parce qu'au milieu de terrain, il y avait un mec comme Doucouré qui était super important avec Fofana. Le gars, il n'est pas là.
C'est vrai.
On n'en parle jamais.
Travail de remplacement.
Mais c'était une grosse perte aussi. Hein. C'était une grosse perte. On pensait que... moi, Klaus, franchement, c'est quand tu vois en plus comment il est avec l'OM, tu dis que franchement, c'est une sacrée perte et tout. Bon, non, voilà. Doucouré, pareil. Les gars, ils remplacent. Au milieu de terrain, à côté de Fofana, maintenant, tu as Abdoul Samed... Super 6, il fait tout, il habile, pareil. Les mecs s'en vont, ils trouvent un remplaçant, l'esprit demeure. C'est que positif, quoi. Que positif. Tu te demandes qui ils doivent perdre.
Que positif, parce que là, on est sur autre chose que aise, entre guillemets, on est sur le travail de recrutement. Parce qu'ils ont déjà les cartouches là. On va dire qu'aujourd'hui, eux, ils doivent envisager déjà les postes sur lesquels ils doivent se positionner pour la suite.
Kakuta, qui n'était pas titulaire à 100%, mais qui a quand même été un joueur important.
Kakuta, il ne joue plus.
Donc voilà, lui, pareil. Alors qu'à un moment, on disait que c'était un joueur important de l'équipe et tout, même si petit à petit, il a disparu. Bon, pareil. Lui aussi, remplacé. Pereira da Costa a pris sa place. Impeccable. Ça roule.
Et puis, faut quand même citer Cabot, qui a du chien.
impossible de le tenir en laisse.
Exactement. Il était virevoltant sur son côté.
Exactement.
17 occasions à 2, quand même, j'aurais des stats. 21 tirs à 4. Voilà. 6 tirs cadrés à 0.
Alors, un mot avant de parler de Lyon, quand même, j'aimerais qu'on dise, que vous disiez ce que vous pensez de Sotoka. Parce que Sotoka...
Il a un nom de boucherie industrielle.
Non. Oui, c'est la société... ou la société de tourisme du Cameroun.
Oui, voilà. Sotoka.
En Afrique, c'est souvent comme ça, les boîtes. Ouais. Société Saudi Bara, la société de diffusion du bâtiment.
Il y a une entreprise qui s'appelle comme ça.
Ouais. Ah, Sotoka
ah, ouais, c'est pas la Sotoka, mais c'est pas loin.
Ça ressemble.
C'est un truc dans le genre.
Bref.
Un truc dans le genre. Jérôme va te le dire, il va retrouver ça.
Là, on est.
Socopec ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Alors, on est sur l'archétype du mec, on a l'impression que. Un peu Ligue 1, Ligue 2, écoute, quoi.
L'année dernière,
Sotoka. Et puis Sotoka, pardon, mais.
L'année dernière, quand on
chapeau
a fait.
Chapeau l'artiste.
Quand on a fait l'équipe des seconds couteaux, l'équipe des mecs de Ligue 1, là, où il y avait beaucoup de Rennais dedans, un peu de Strasbourgeois, dont Thomasson et tout. Moi, j'avais mis Sotoka. Avec Giroto et compagnie, on me l'avait un peu bâché, mon Sotoka, l'année dernière. Hein? Je suis content de voir qu'il est dorénavant titulaire. Parce que lui, pareil, l'année dernière, il n'était pas toujours titulaire. Là, il est titulaire. Je le mets dans mon équipe Ligue 1.
C'est-à-dire,
il n'est pas international, c'est un joueur Ligue 1.
Tireur de pénalty, parce que j'ai eu un doute, je me suis demandé si ça n'allait pas être Seco Fofana.
Ils alternent, normalement, c'est Fofana, ouais.
Ça m'aurait arrangé pour un.
Bon, bravo Lens. Voilà, on va conclure là-dessus sur le Racing Club de Lens avant d'attaquer maintenant Lyon. Les gars, on se retrouve dans quelques instants. Luigi est déjà là, il nous attend. Gros coup de gueule, pas mal de messages à venir également. Je crois que Peter Boss va avoir les oreilles qui sifflent dans quelques instants.
Il n'y a pas que Boss qui doit avoir les oreilles qui sifflent. Et Ola, c'est et Bruno Cherou qui reste dans son bureau là. Au lieu d'aller sur le terrain pour voir des joueurs et recruter des bons.
Et ben c'est parti. Lyon est dans l'after dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Florent Gautreau est là. Daniel Riolo est là. Francaise en direct. Avant d'attaquer l'OL, il vient d'arriver en conférence de presse. On va écouter le début.
La performance quand même si le résultat aurait été frustrant. Mais là, on a tout.
Allez, on écoute, Francaise en direct, on a raté la première.
Ouais, j'ai du mal toujours à mettre un peu des. Mais oui, parce que l'intensité qui a été mise, la main mise sur le match, ce que je répète, c'est Lyon. Donc il y avait certainement un peu d'absence et un banc moins fourni, mais qui avait quand même une grosse équipe. Le 11 de départ est quand même de très très grande qualité. Et on avait fait des bons matchs les années précédentes contre Lyon, on n'avait d'ailleurs jamais gagné, mais on n'avait jamais fait un match autant abouti.
Lyon est à 8 points. Allez, encore une réponse.
Excuse-moi. D'avoir 8 points d'avance sur une équipe comme ça, ça veut simplement. Enfin, pour nous en tout cas, je vais parler de nous, on fait un très très gros début de saison. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Mais on fait avoir 21 points à la 9e journée, quel que soit le nombre de points qu'on ait d'avance sur Lyon ou sur d'autres, c'est quand même assez énorme et ça prouve la qualité de ce qu'on met en place.
Voilà, ils ont dit effectivement 8 points d'avance sur Lyon, les Lensois.
En d'autres temps, avec un tel bilan, il sera deuxième. Il sera juste derrière le PSG.
Possible. Luigi est là, supporter de l'OL. Salut Luigi.
Bonsoir messieurs.
Ah. Bon, Luigi, tu veux parler de quoi en premier ?
Mais pour commencer sur une note positive, bravo au RC Lens et à leur coach qui, lui, est compétent. Donc je pense que vous avez très bien compris de quoi je veux parler en premier. Mm-hmm. Je veux parler de l'arnaque du siècle, de l'escroquerie qu'on se tape depuis un an et demi. Je veux parler de mon ami Peter Bosch. Puisque Peter Bosch, à un moment, on lui a trouvé 1000 excuses. Alors, je sais, Daniel, il n'y a pas longtemps, a décidé d'arrêter. Pareil pour Flo. Mais c'est pas grave. Je le dis quand même, sur votre antenne, on entend toujours Kevin Diaz, Walid Acherchour dire que c'est pas tellement 100% de la faute de Peter Bosch. Moi, je vais vous expliquer pourquoi ce qui nous arrive depuis un an et demi, c'est la faute de Peter Bosch. Puisque à un moment, il faut arrêter de se moquer de nous. À Lyon, franchement, on n'est pas un petit club français. On n'est pas rien du tout. On est des gens sérieux. Donc, moi, on peut me dire que Peter Bosch, c'est un entraîneur qui n'a pas l'effectif qu'il faut, mais j'ai fait une demi-finale d'Europa League avec deux ailiers, Valbuena, Rachid Ghezal et Mouktar Diakabi, titulaire en défense centrale. Moi, j'ai eu des meilleurs résultats en Ligue 1 avec Gaël Dalic et Steve Malbranck, titulaire au milieu de terrain. Moi, j'ai fait des meilleurs résultats en Ligue 1 avec Clinton Engie et Claudio Beauvue, titulaire en Ligue 1. Moi, j'ai fait des meilleures saisons avec Arnold Mbouemba, avec Milan Bizevac, avec Emmanuel Mamana. Et la liste, si vous voulez, elle continue. Donc cette histoire de à Lyon, l'effectif, il n'est pas assez bon.
Ça, vous en avez un paquet des pipes à Lyon. Déjà, c'est peut-être ça qui est anormal, c'est que vous ayez eu toute cette collection de mauvais joueurs.
Oh, mais ça, je suis d'accord. Et ça, c'est ce qui vient après. Mais à un moment, on a quand même le droit de dire qu'on a enchaîné des pipes pendant les 15 dernières années, mais qu'il y en a un seul qui arrive à faire d'aussi mauvais résultats. C'est lui. La dernière fois que j'ai vu 4 défaites, et ben en fait je les ai pas vues puisque j'étais pas né. La dernière fois qu'on a eu 4 défaites consécutives, moi j'étais même pas né.
Ah, donc tu sais quand ça remonte ?
Ça remonte à l'ère Raymond Domenech.
Tiens, quelle surprise.
C'est un truc qui va pas dans le foot français, ça remonte toujours à Domenech, je sais pas pourquoi.
Une grève, 4 défaites de suite.
Quand ça remonte à un truc qu'on n'a pas vu, cherche pas, c'est Domenech.
Des mauvais effectifs, oui. Des mauvais joueurs, oui. On en a vu. La cellule de recrutement fait un taf ignoble, mais ignoble depuis des années. Mais à un moment, il n'y en a qu'un qui a des résultats aussi dégueulasses. Et j'insiste sur le mot, je suis désolé, c'est Peter Bosch. Puisque 8e la saison dernière, on est quel club, nous, aujourd'hui, pour conserver un entraîneur qui finit 8e ? On est quel club, en fait? Vous connaissez quoi comme grand club qui se dit « Oh, huitième, c'est pas grave, on va continuer, on va lui laisser... » Mais on est où, là, en fait?
Bah, Mikel Arteta, par exemple, qui a été catastrophique l'année dernière, qu'on a laissé travailler, qui a constitué son effectif, qui a pu avoir les joueurs qu'il voulait, en éliminant d'autres, et qui fait une très bonne saison avec Arsenal. Je continuerai pas à défendre Peter Boss, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines, et pas simplement une semaine, mais plusieurs semaines, que j'ai dit qu'au bout d'un moment... Le discours, c'est très bien, et que si on l'a épargné, en tout cas pour ma part, je vais ne parler que pour moi, pendant un an, c'est que au moins j'entendais un discours que j'avais pas entendu depuis longtemps. Bon, certes, aujourd'hui et depuis le début de la saison, je pense qu'on devait en être au 3-4e match, même la série, parce qu'il y a eu une série assez folle de victoires au début de la saison, même à ce moment-là, quand il y avait ces scores larges et ces victoires, je pensais déjà que c'était fini parce que je le sentais. Aujourd'hui, ça se confirme. Le problème, effectivement, Peter Boss, il faut le changer. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas qui va venir, si c'est Laurent Blanc ou un type dans le genre. Et ça, il y a des chances que ce soit lui, un type qui n'a pas entraîné donc depuis très longtemps. Les questions qui se posent, moi je le dis depuis des années, ça tu ne pourras pas dire le contraire. Les gens qui prennent les décisions dans ce club, la cellule de recrutement, je ne sais pas qui fait quoi. Je ne sais pas qui décide de quoi. Dans ce club, je ne sais pas quel est le travail de Ponceau, je ne sais pas quel est le travail de Bruno Chirou, je ne sais pas ce que fait Jean-Michel Aulas à part essayer de vendre le club et être obligé de mettre un nouveau délai parce qu'il a valorisé beaucoup trop cher le club.
Ça, c'est encore un autre sujet qui pourrait tourner au ridicule.
Je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette histoire, mais je trouve que c'est assez inquiétant malgré tout ce qu'on essaye de nous dire. C'est pas normal que le délai soit repoussé. C'est pas normal qu'on l'ait valorisé aussi cher le club alors qu'il ne vaut pas le prix qui a été mis sur l'étiquette. Et c'est pour ça que l'autre, il a du mal à constituer son tour de table. Il y a une dette qui est énormissime à l'OL. Énormissime. Ça veut dire qu'avant de recruter des grands joueurs, il va vraiment se passer du temps à Lyon. Moi, à mon sens, le club est dans une situation très délicate qui va bien au-delà de ses défaites en ce moment.
Eh ben, écoute, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que ce club, il vaut encore quelque chose. Ce club, il vaut encore beaucoup d'argent. Ce club, il y a les infrastructures qu'il faut, il y a le stade qu'il faut, il y a des choses à acheter.
Mais il n'y a pas les hommes pour le diriger, Luigi.
Quand Mikel Arteta, il n'y a pas les hommes pour les diriger, les hommes, justement...
Il n'y a pas d'hommes pour diriger ce club aujourd'hui.
Mais c'est ce que je
Les hommes qui dirigent ce club ne sont pas à la hauteur.
Des coups de balai partout.
Mais de qui ?
Récupérez-moi Francaise en entraîneur, récupérez-moi Concessant en entraîneur. Récupérez-moi ce que vous voulez, mais même Zubizarreta, il va.
Mais le problème, ça n'est pas que l'entraîneur. Le problème, c'est les gens qui prennent les décisions, les gens qui recrutent. Quel est le travail de Ponceau? Quel est le travail de Bruno Chirou? Bruno Chirou, il y a deux mois, il se foutait de la gueule de l'OM. Aujourd'hui, il est grotesque avec les baltringues qu'il a recrutés. Si c'est lui qui les a recrutés.
Grotesque, Bruno. En fait, je suis d'accord avec toi, Daniel. Tout ce que je te dis, c'est que ce club, il peut être sauvé et que ce club, il n'est pas dans une situation aussi.
Mais pour être sauvé, il faudrait qu'il y ait un président qui prenne des bonnes décisions. Et ça fait des années qu'il en prend que des mauvaises. Et quand il va remplacer Peter Boss, Peter Boss par Laurent Blanc avec je sais pas qui comme assistant, je suis pas sûr que ce soit une grande décision non plus.
Renvoyé Jean-Michel Aulas.
Non mais attends, il est pas renvoyé du tout parce que le club en fait pour l'instant il est pas vendu hein, donc
oui, là c'est bah, il va être vendu et je vois très mal.
Ah bon, il va être vendu, toi t'es sûr de ça toi?
Moi, tant que l'oseille est pas là, moi j'y crois pas pour l'instant.
Oui, attention.
Moi je trouve que ça c'est pas normal quand ça traîne comme ça.
Non, mais ils ont annoncé quand même officiellement que la vente était reportée. Ils ont mis une date qui est 21 octobre.
Excuse-moi, mais toi, quand tu veux vraiment, vraiment, vraiment une bagnole, t'arrives chez le concessionnaire le 1er septembre. Pourquoi tu l'achètes pas?
Mais puisque il faut.
Qu'est-ce qui peut t'empêcher de l'acheter? Bah, parce que tu te rends compte que sur ton compte, t'as pas assez d'oseille. Sinon, voilà, tu l'achètes si tu la veux vraiment, la bagnole.
Oui, mais qui achète des clubs argent comptant aujourd'hui, Daniel?
Non, c'est pas ma question, Luigi.
Attends, Daniel, calme-toi. Le problème de cette affaire, après on reviendra au match de ce soir, mais le problème de cette affaire, c'est qu'il y a des annonces assez tonitruantes qui ont été faites. On était à Lyon d'ailleurs en juin, et que trois mois plus tard, en fait, ces annonces-là, elles n'ont pas été.
Il se trouve qu'il y a un mec qui a dit j'achète le club. Il a dit j'achète. Il vient venir avec des potes qui avaient de l'oseille. Il y a pas l'oseille.
Non, il a même dit.
C'est comme si toi tu vas acheter la bagnole. Et il y a deux potes à toi qui doivent compléter l'oseille. Des mecs qui viennent, ils disent j'ai pas l'oseille.
Daniel, il a même dit moi j'aime pas avoir des dettes, j'achète comptant, enfin dire des trucs, je mettrai tant, etc. Et
pour l'instant c'est mytho.
Bon, mais revenons quand même sur le match de ce soir. Luigi, je te remercie.
Je suis d'accord, il y a pas de souci.
Mais tu, toi, donc, pour résumer ton propos, le principal problème aujourd'hui, c'est l'entraîneur. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, Daniel, lui, il va toujours à chaque fois. Répondu, c'est son habitude.
Ouais, mon problème, Jean-Michel, non, Olas,
le problème de la structure, pareil, on a déjà beaucoup parlé. Donc, effectivement, il y a un problème de structure à Lyon et de direction. Donc, ça, c'est sûr. Mais néanmoins, là, maintenant, il faut trouver une solution là, ponctuelle. Donc, le vrai truc important à savoir, c'est plutôt, je reviens au point du changement d'entraîneur et par qui tu le remplaces. Parce que là, à nouveau, tu as quand même.
Pour toi, il faut changement aussi.
Ouais, faut changer. Oui, faut changer d'entraîneur. Mais là, parce que je t'ai dit, cool. Quand tu as Peter Boss qui n'intervient plus, qui s'enfonce sur son banc dès la 10e minute et qui dit un truc de dingue, hein, en conf de presse. Bon, déjà, il se cache derrière le péno en disant c'est très dur hein, sur un péno comme ça, en sous-entendant qu'il est sévère ou je sais pas quoi.
Oui, qu'est-ce qu'il aurait aimé? Il aurait aimé un 0-0 ouais,
ou pire,
dans ce match-là.
Ou pire, il aurait aimé. Voilà, pour en prendre une défaite plus claire, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, tu sens que le gars, là, il est en mode défense pour durer le plus possible quelques semaines de plus. Il y croit plus lui-même. Donc, je pense qu'il faut changer d'entraîneur. Mais là encore, sachant les erreurs qui ont été faites récemment, dans l'histoire récente lyonnaise, même avant de changer, d'éventuellement changer de processus directionnel, je pense qu'il y a quand même aussi un truc à faire au niveau de l'entraîneur, différent effectivement d'une idée à la Laurent Blanc. Il y a encore moyen de construire quelque chose sportivement avec cet effectif. Je suis assez d'accord avec ce que dit Luigi sur aujourd'hui, tu vois, les effectifs, on en parle là. Tu sais, vous avez parlé de vos équipes l'an dernier quand on a fait une équipe, on va dire, des seconds couteaux de la Ligue 1. En fait, aujourd'hui, si tu as un bon entraîneur, c'est ça l'histoire, c'est ce que j'ai dit avec Tudor, tu sais, dans un avis tranché récemment en disant, fini le temps où on disait qu'il fallait du temps pour un entraîneur. Aujourd'hui, si tu as un bon entraîneur qui a des idées claires et qui emmène tout un groupe avec lui, tu dois faire déjà mieux que ce que fait Lyon aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, t'as un effectif pour faire beaucoup mieux que ce que fait Lyon aujourd'hui. Et donc, dans le choix de l'entraîneur, là, il y a un moment crucial. Il faudra peut-être prendre un petit peu, un petit peu de temps pour ça. Mais je pense quand même qu'avant de parler, parce que sinon, ça renvoie tout ça au calendrier grec, de changement, de cellule de recrutement, de directeur général, etc. Il faut d'abord changer d'entraîneur et trouver un entraîneur qui relance la machine, parce qu'il y a un effectif quand même, effectivement, comme le dit Luigi, pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que cela. Moi, je pensais d'ailleurs, dès le début de la saison, que la bosse, une fois qu'il aurait éprouvé toutes les difficultés qu'il a éprouvées, il y a une interview très intéressante où il parlait du vestiaire, de sa surprise, de la découverte du foot français. Ok. Et je m'étais dit, bah, il a l'effectif, cette idée-là, même la casette, et pourquoi pas, c'est pas la casette, honnêtement, qui est en cause hein, depuis le début de la saison. Ils ont les joueurs pour faire beaucoup mieux. L'entraîneur ne peut plus le faire, il faut changer, mais il faut faire attention, parce que si effectivement tu fais un nouveau mauvais choix, là je pense que là tu iras définitivement dans le mur.
Ok, sur ce choix-là, à l'intersaison, la communication a principalement tourné autour du duo Lacazette-Tolisso. On est le 2 octobre, qu'ont apporté ces deux joueurs?
Bon, Lacazette, t'es dur. Lacazette, il apporte un leadership. Là aujourd'hui, tu vois par exemple
Il est le capitaine d'une équipe en perdition.
Et ouais, mais c'est pas facile.
Il est le capitaine d'une équipe en perdition.
Il ne fuit pas sa responsabilité.
Je te dis pas qu'il fuit sa responsabilité. Je te dis que avant de construire une politique marketing sur le retour des enfants du pays, les prophètes, les machins, les trucs, les conneries, construit une équipe. L'équipe, elle ne vaut rien. Il y a un gamin au milieu de terrain qui est complètement dépassé, le pauvre, il a rien à faire là. Mais tu te rends compte de ce qu'on entend?
Tu actes définitivement là l'échec du retour des fils, des enfants du club.
Bidon, pas tout pour ça. Le général Lacazette, les commentateurs arrêtent pas. Il se trouve des expressions toutes faites et tout ça.
Je suis pas d'accord.
Arrête de nous saouler. Laissez-le déjà d'essayer d'être le leader d'une équipe qui fonctionne. C'est une équipe qui est catastrophique. Moi, je dis pas que lui est catastrophique. Lui, il est pas catastrophique. Il fait ce qu'il peut. Mais par qui il est entouré? Par un chouineur de première catégorie qu'on a titularisé ce soir et qui a montré à quel point c'était encore un joueur de futsal. C'est un joueur de five. C'est même pas encore un joueur de foot à 11. Qui y a avec lui? Qui y a dans cette équipe? Avec qui il joue, Lacazette? Tolisso, il est blessé. On sait qu'il a un problème physique depuis des années et que probablement on s'accroche. C'est comme moi quand je m'accroche avec Renato Sanchez au PSG. Oui, potentiellement, je vois bien et tout, mais je suis bien obligé de reconnaître que le mec se crame trop souvent pour que ce soit normal. T'as des mecs, à un moment, un bon joueur, comme je dis souvent, c'est un joueur qui joue, c'est-à-dire qu'il rate pas 60% des matchs, et c'est également ben un mec qui est pas blessé. Et Renato Sanchez est beaucoup trop blessé, Tolisso aussi. Ça traduit quelque chose, hein. Tu peux pas t'appuyer sur eux. Après, le milieu de terrain, il est fait de quoi? De Cacré, qu'à Lyon, on vend comme une perle rare depuis des années. C'est un bon petit joueur.
Non,
c'est un bon petit joueur sans plus, Cacré. C'est pas grand chose, Cacré. C'est du petit lait. C'est de la petite bière. C'est pas grand chose.
Mais Daniel, l'erreur que tu fais là, c'est que tu es en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout est acheté parce que Boss a perdu le fil. Ouais, non, mais tous les bébés, là, c'est tous les joueurs. Là, tu jettes la casette, tu jettes Cacré. Moi, je te dis, justement.
C'est pas nouveau, je le dis pas d'aujourd'hui, que je trouve que ce sont pas des joueurs pour le niveau de Lyon.
Je ne suis pas d'accord. Cacré a le niveau de Lyon, c'est un très bon joueur. La casette a encore le niveau pour jouer en Ligue 1. Je te dis justement,
la casette, évidemment, je te dis pas que tu es mauvais, moi.
Et ben, moi, je te dis qu'il y a une équipe.
Je te dis qu'au lieu de construire tout sur lui, on aurait dû faire une équipe.
Contrairement à ce que tu dis, et en accord avec Luigi, le supporter de Lyon, je dis que un bon entraîneur aujourd'hui reprend cette équipe. Il a de quoi faire avec 14-15 joueurs très performants. Si Cacré est un
mais
bon joueur.
Mais c'est qui les joueurs au milieu de terrain arrive. C'est qui tu vas jouer avec qui?
Et la charnière centrale.
Dis-moi avec qui tu vas jouer.
Avec Thiago Mendes qui ne doit pas jouer en charnière centrale. Ouais, ça, c'est
avec
vrai.
Avec qui tu vas jouer au milieu? Tu continues à le mettre le copain de ton fils au milieu.
La vérité, c'est que c'est Cacré et Tolisso qui
l'ont joué. Le problème de Le Penon, c'est qu'il a cours de SVT demain à 8h30. Donc, c'est difficile.
Mais qu'il arrive et tout, il est titulaire. Il y est pour rien, le pauvre.
Le Penon, il fait un début de saison très remarquable.
T'as l'impression qu'il est dans la cour de récré avec son ballon.
Oui, mais enfin, il fait un début de saison remarquable et on disait tout le bien qu'on en pensait sur les premiers matchs. Donc, faut pas. Si, quand même, c'est un très bon joueur.
Il n'est peut-être pas encore l'envergure pour tenir Lyon sur ses épaules.
Exactement. Mais c'est ça le problème. D'accord. Moi, je te dis pas qu'il est mauvais, je te dis, c'est pas Ouel.
Tiens, Aurel est là, au 32-16. Aurel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut, Aurel.
Bon, tu veux parler de Peter Boss en premier, toi?
Sur les absents, parce que quand même, Loukeba, Fèvre, Dembélé, ce soir, Loukeba en charnière centrale. Donc,
excuse-moi, Fèvre, t'as l'impression qu'il est arrivé à l'OL un jour?
D'accord, mais bon,
il est arrivé à l'OL un jour, Fèvre.
Ouais,
on comprend que quand il est pas là, on s'inquiète.
Ah, mais sur un effectif.
Mais Fèvre, moi, j'ai l'impression qu'il est jamais arrivé à Lyon.
Bah, je te dis que Loukeba, ce soir, c'est important que Dembélé devant peut aussi faire du bien.
Loukeba, c'est pas lui qui, ce soir, manque vraiment, tu vois.
Aurel, toi, tu veux parler de Boss en premier ou des joueurs?
En fait, je vais te dire ce que j'ai dit tout à l'heure au standard, c'est que vivement la saison prochaine, je suis passé à un stade complètement au-dessus. Pourquoi?
On disait ça l'an dernier déjà à Lyon, je te signale.
Comment?
On disait déjà ça l'an dernier à Lyon, vivement la saison prochaine.
Mais tu sais, t'as toujours cette petite lueur d'espoir parce que t'es supporter de ton club et tu dis, bon, quand même, ça va le faire cette année, puis en fait, chaque année, ça le fait pas. Mais je peux commencer par Boss. C'est pas foncièrement le problème. Enfin, il n'y a pas que lui, parce que ça fait plusieurs années qu'on se match. Bon, avant, c'était la deuxième mi-temps ou le dernier quart d'heure. Là, c'est devenu complètement le match en entier qui est pourri. Et tu peux changer autant d'entraîneurs, que ce soit Genesio sur la fin, tu mets Garcia, Silvino ou Boss. Bon, en fait, c'est toujours le même résultat. Et à chaque fois, tu as à te dire, OK, il faut qu'on trouve une solution de rechange court terme. Donc, cette année... Pardon, on va finir avec Cassapa et on va se retrouver avec un ADN OL marketing du style l'année prochaine.
Ça coupe un peu Aurel malheureusement, mais j'ai bien compris que tu mettais tout le monde dans le même sac. Je rebondis sur quelques messages sur Direct Studio. Philippe qui nous dit très mécontent de l'attitude de nos joueurs, aucune envie, aucune course, aucun jeu en première intention, pas de pressing, aucun démarquage, c'est la cata totale. Et ça, c'est pas forcément que de la faute de Peter Boss. Toute la direction est concernée, c'est lui le recrutement en premier, être obligé de mettre des jeunes à la place des titulaires car trop de blessés, c'est la honte, dit Philippe. Et puis j'ai Jérémy qui dit j'ai toujours soutenu Peter Boss, mais il fallait lui laisser du temps, mais là, quatrième défaite de suite, il faut changer, c'est sûr. Voilà, donc tout le monde l'enterre, hein, là, Peter Boss, à voir ce que va faire.
C'est fini, Jean-Michel, c'est fini, voilà. L'histoire, elle est finie. L'histoire,
pas trop l'habitude de Lyon hein, de changer en cours de saison. Hein.
Oui, mais à un moment, les habitudes, il faut les changer.
Bon. Alors, j'ai le nom dans le 1617 hein, de l'entreprise, c'est la SKEP, la société Kerot d'élevage de poulets.
Ah oui, je me souviens, la SKEP.
Il y a ça, notamment, il y a peut-être une autre, hein, quand même, parce que moi, j'en ai une qui ressemble plus
avec à Avec le gardien de la SKEP qui est un traître.
Et on me donne la Socopa aussi dans un autre, peut-être dans un autre OSS, t'as tout.
Ah.
Bon, bref.
C'est d'ailleurs avec la Sotoka, donc, en l'occurrence.
Ouais.
Bon. Cherki. Daniel a été un peu dur avec lui tout à l'heure.
Non, je n'ai pas été dur du tout.
Non, mais j'aimerais que Claude donne son avis. Parce que, pour
c'est
une
un
fois.
Joueur d'Urban.
Pour une fois, il était titulaire. Donc, avant le match, c'était ah, Cherki, on va voir, titulaire, enfin. RMC Sport a fait un push sur le téléphone pour vous annoncer Cherki titulaire. On s'est dit, waouh, on va voir ce que ça va donner et tout.
Le mec, il fait que chialer en permanence pour être titulaire. Le mec, il bouge même pas son cul sur le terrain.
Ses fesses.
Hein?
Ses fesses.
Non, on a bougé le cul, on peut le dire. C'est bien, arrête quand même. Oh, deux secondes.
Cherki, c'est le, je te dis, c'est un peu le foot d'un autre âge. C'est-à-dire que c'est terrible à dire, c'est que des très bons joueurs techniquement à qui on a dit surtout depuis qu'ils sont tout petits qu'ils faisaient la différence parce que c'était vrai dans les catégories de jeunes. Donc ils sont persuadés et tout leur entourage leur dit, il devrait être titulaire parce que lui il ferait la diff. C'est ça qu'on dit. À Benzema,
ouais, ça, on lui dit tout le temps.
Ouais, mais à Benzema, on lui disait la même chose, sauf que Benzema, il a su continuer à travailler, à progresser et à changer son style et à s'adapter, y compris à l'étranger, pour être un autre footballeur. Alors, Cherki, attends, il a que 19 ans, donc je lui souhaite de faire comme Benzema et d'aller vers ça. Mais aujourd'hui, il réclame une place de titulaire, qu'à mon avis, pour l'instant, il mérite pas plus que ça, mais sur un postulat qui est un postulat, je te dis, d'un autre âge, qui est j'attends, je trottine, tu me donnes le ballon, je fais un dribble, je fais la diff et je lance l'attaquant. Ouais, ok, mais ça on a vu, il a essayé de le faire un petit peu. On sait qu'il est très bon, oui, techniquement, mais aujourd'hui ça suffit pas. Donc en fait, si tu veux, c'est des joueurs pour moi un peu démodés, qui restent brillants parce que techniquement ils savent tout faire, mais qui ne servent plus à rien. Et alors, en plus dans un effectif qui est perdu, effectivement, il ne sert plus à grand-chose. Et après, il y a un deuxième truc. Toute cette pression sur le fait d'être titulaire, pas titulaire, comme équitiqué hier, d'ailleurs, avec le PSG, tu sens que le gars, il s'est mis un peu la pression pour ce match-là et que finalement, il rate plus ou moins son match parce que bah, il tombe sur 11 Lensois affamés ou au moins 10 sur le champ. Le mec, il sait pas où ça arrive. Et parce que oui, aujourd'hui, bah, il faut se battre pour récupérer le ballon et on va pas te le donner dans un fauteuil. Ça va pas suffire. Donc, moi, toutes ces hypes sur effectivement ces joueurs-là, bon, il y en a plein, il y en a beaucoup des joueurs comme ça. Tu vois, même moi, quand Guiri, puisque pour prendre un exemple, le Lyonnais est arrivé à Rennes, moi je suis pas un grand fan de ce genre de joueurs, même si ce sont des très bons joueurs. À voir, pour moi, c'est des joueurs à qui on a dit depuis tout petit, vous êtes très fort, vous allez faire la diff tout seul. Aujourd'hui, tu fais plus la diff tout seul, c'est terminé, et tu fais pas la diff comme ça. Donc, c'est des joueurs brillants sans doute, mais pas forcément utile dans un collectif, dans le collectif tel qu'il est à l'heure actuelle.
Là, c'est clair, des joueurs dont tu peux te passer, vraiment. Mmh. C'est pas des joueurs indispensables.
Bon, on attend éventuellement Jean-Michel Aulas, parce que en général, Jean-Michel Aulas, il sort du bois dans la difficulté. Donc là, on va voir ce qu'il va dire.
Ah, là, il y a beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a la
difficulté, c'est de parler à Textor en ce moment, lui. Donc, tu vois.
Oui, là, il est un peu dans le dur, là. Mmh. Entre les résultats sportifs, la vente et tout.
Parce que là, je te signale qu'avec des résultats comme ça et tout, les mecs qui devaient abonder, là, qui devaient arriver avec deux, trois blés de plus à mettre dans le paquet, ils vont dire, attends, qu'est-ce qu'on va y foutre, acheter un club, là. Mmh. En plus, il est vendu super cher, parce que la valorisation est beaucoup trop élevé. Et les mecs ils vont dire, mais attends, mais pourquoi on va les mettre des billes là-dedans là, ça va nous rappeler quoi.
Je surveille le compte Twitter de Jean-Michel Aulas, dernier tweet cet après-midi sur les féminines. Ah. Enfin, la branche américaine, l'équipe américaine détenue par Lyon. Donc rien pour l'instant ce
pour
soir.
Pour le prix de l'OL, c'est intéressant parce que j'avais discuté pas mal avec des gens qui est notamment lié à la société commerciale qui est entrée dans le foot français cette année. Et tous ces gens-là se réjouissent évidemment de l'arrivée, enfin se réjouissaient de l'arrivée d'investisseurs comme Textor, et en disant d'ailleurs, effectivement, Diaolas a bien vendu, tu vois quand même. Mais bon, c'était le prix tel qu'il était annoncé à l'époque. Alors après, attention, il y a des actifs hein, quand même à Lyon, donc ils savaient où ils mettaient les pieds quand même les gars. Peut-être, j'imagine pas qu'ils soient prononcés aussi rapidement non plus, sans connaître la dette et sans connaître ces histoires-là. Après, sur le plan des résultats sportifs, je te dirais que vu de l'extérieur, le 1-0, la défaite 1-0 à 9 minutes de la fin sur penalty, si t'analyses pas précisément ce qui s'est passé ce soir, peut-être que pour un investisseur américain,
quand ça fait 4
points de suite, c'est un peu moins visible qu'un 4-0 ou un 6-0.
6e ou 7e, t'es pas en Coupe d'Europe et tout. Ouais, l'investisseur américain,
ça,
je te bien.
Ça, il le savait.
Tu vas pas le fourrer comme ça, quoi.
23h39, on a fait le tour sur Lyon. On va voir maintenant ce qui va se passer. S'il y a des évolutions ce soir, enfin d'ici minuit, évidemment, on vous les relaye dans l'after. Et nous, il nous reste un gros quart d'heure, 20 minutes. Derrière, on va se concentrer sur les autres matchs du jour. Parler de Lorient, parler de Monaco, parler de quoi je voulais qu'on parle. Bah, de Toulouse également. Il y a encore des problèmes d'ailleurs, encore en tribune hein, ce week-end, notamment lors du match Toulouse-Lorient. Bref, l'actu Ligue 1 jusqu'à minuit. Et puis, avant minuit, on vous expliquera également l'argumentaire des maires qui ne veulent pas les écrans géants pour la Coupe du Monde, puisqu'ils interviennent tous, là, Martine Aubry, la dernière, ce soir. On en parlera avant minuit dans la fin.
Les maires qui sont tous du même côté.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h41, ils sont là, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Dans les résultats marquants du jour, les gars, il fallait dire, donc on dit un mot de Lorient qui continue, ça marche en avant. L'effet Le Bris annoncé en avant-première dans l'after par Thibault Leplat continue. Et maintenant, il y a toute la famille qui s'y met, puisque le but de la victoire est marqué par le neveu du coach. Magnifique but d'ailleurs, vous avez vu le contrôle, il s'emmène le ballon, on rentre, pam, voilà. Où vont-ils s'arrêter, les gars, les Lorientais? Parce que c'est vrai que c'est assez dingue là. C'est plus une hype de l'été maintenant.
Autant Lens, tu t'y attendais, t'avais l'année dernière, tu savais un peu où ils allaient, tu connaissais Franck Hez. Là, Le Bris, on en a entendu parler, mais bon, il fallait qu'on voit parce que c'est mieux de constater, même si on savait en théorie ce qu'il valait. C'est vrai, tu sais pas. Franchement, je sais pas. On avance match après match, ils gagnent. Aujourd'hui, en plus, ils font pas un super match. Mmh. Ils gagnent quand même. Ça a beaucoup énervé les Lillois qui ont pété un câble à la fin. Les temps, notamment le président a dit qu'il a pas supporté l'attitude de ses joueurs.
Ouais.
Joueurs que j'ai trouvé plutôt meilleurs que les Lorientais en seconde période. Notamment quand ils ont été en supériorité numérique. Ils ont
plus que le jeu,
ils ont eu les occasions. C'est presque fou et anormal et d'une réussite insolente qu'ils réussissent à l'emporter avec ce but.
Quatre victoires d'affilée, là.
Du neveu, là, à deux minutes de la fin.
Cinq victoires d'affilée.
C'est impossible de savoir.
Ça monte.
Jusqu'où peut aller cette équipe. Là, pour le coup, est-ce qu'il faut mettre en avant le travail qui est fait ou s'inquiéter du niveau des autres en Ligue 1? Est-ce que les Rennes, Monaco, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont combler le trou et revenir sur Lorient? Mais Lorient, cette année, là, à ce rythme-là, moi, je veux bien qu'on s'écroule dans une saison. Mais là, tu te dis que ça va forcément faire 5 ou 6. Hein. Ça va faire 5 ou 6 cette année. Là.
C'est un peu tôt pour le dire, mais enfin bon.
Je sais pas, il faudrait que d'un coup, il s'écroule et qu'il n'y ait plus rien. C'est-à-dire que toutes les valeurs et tout ce qui est mis en place ne fonctionne plus. Je sais pas.
C'est un schéma assez comparable en soi d'ailleurs par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le collectif et peut-être même après sur qui finit les actions, parce que t'as Mofi qui est mieux cette année, mais t'as pas non plus, tu vois, forcément d'attaquant ultra emblématique, mais t'as un collectif là pareil incroyable. Ce qui s'est passé comme cet après-midi, moi ce que j'ai adoré dans ce match, si Lille le perd, c'est aussi parce que Fonseca à un moment donné à 11 contre 10 décide de renforcer son équilibre vers l'offensive pour l'emporter. Et que Le Bris en profite, parce qu'en gros, voilà, il y a un tout petit déséquilibre qui peut se créer, et ils en profitent pour contrer, entre guillemets, et pour ça. Mais ils le font aussi parce que Fonseca a pris un peu tous les risques. Donc moi, je serais pas dans la ligne de l'étang en disant, les joueurs ont pas fait ce qu'il fallait. Moi, je trouve que Lille a pas été si mauvais. Et je trouve qu'effectivement, Fonseca a voulu gagner le match, qui était la moindre des choses, en ce qu'on dise. Mais il a pris aussi le risque, entre guillemets, de le perdre, parce que, Lorient, toute sortie de balle peut générer du danger. On essaie de relancer toujours proprement, donc il se passe toujours quelque chose. Il y a beaucoup de dédoublements. Et là, j'en reviens à ce que je disais sur Lens. On est sur ce foot où ça court beaucoup, on se propose énormément. Et où un arrière comme Le Bris, le neveu en question, oui, arrive et fait ce dribble long, une sorte de double contact pour aller marquer. Voilà. Mais j'ai bien aimé aussi ce qui s'est passé avec les choix de Fonseca. Et après, le travail de Le Bris, c'est une chose. Il y a un collectif incroyable. Moi, je les ai vus pour leur premier match à Rennes. C'est assez emblématique parce que Le Bris était entraîneur à Rennes. Et c'est vrai que déjà, tout de suite, c'est pour ça que je dis que c'est aussi la rapidité avec laquelle ces gars-là impriment ce qu'ils veulent faire. Il y avait déjà, dans les sorties de balles, dans la volonté de jeu, il y avait déjà un peu tous les ingrédients qu'on retrouve aujourd'hui, là.
Alors, il y a une autre équipe qui est très très bien, là, depuis quelques temps maintenant. Très très bien. Oui, en Ligue 1 en tout cas, parce qu'ils ont perdu en Coupe d'Europe, c'est Monaco. Parce que Monaco, là, c'est 3 victoires d'affilée en Ligue 1. Bon, il y a eu le petit couac contre Ferencváros en Europa League. Mais là, voilà, en Ligue 1, c'est pas mal. Et là, on a Raphaël au 32-16, qui est avec nous, supporter de l'ASM. Salut Raphaël.
Salut les gars.
Salut.
Réveil de Ben Yedder, Raphaël.
Réveil, c'est le cas de le dire. On est content de pouvoir le retrouver enfin. Peut-être le début de la saison pour lui enfin.
Exactement. Et tu voulais parler un peu du schéma tactique là.
Ouais, je voulais parler du schéma tactique parce que j'étais content dans l'ensemble du résultat, forcément, même si l'adversaire, je pense, nous a bien aidé aussi. Mais j'ai trouvé que, je trouve au final qu'on est beaucoup mieux à deux attaquants. Mbolo, pour moi, il a, malgré le fait qu'il joue bien, il a quand même plus un profil de judoka que de footballeur. Et donc, ça lui va mieux de jouer à deux attaquants, je trouve, de jouer un rôle de pivot. Ça aide aussi Ben Yedder, donc j'ai trouvé que c'était vraiment plus intéressant l'animation offensive à ce niveau-là. Et la défense, je sais que c'est pas notre point fort, mais à mon avis, ça peut le faire contre des équipes comme ça. Une défense à 4, ça peut le faire avec le milieu qu'on a, Fofana, Camara. Je pense que ça commence à trouver ses marques.
Les gars, vous en dites quoi de cette bonne passe monégasque en Ligue 1?
Là, c'est ce que disait Daniel aussi, c'est-à-dire que là, t'as vraiment ce qui est un peu terrible aussi. C'est vraiment la différence, comme tu dis, regarde, dans cet enchaînement de résultats, faire avec Varos et le reste. T'as une équipe qui a vraiment un effectif, je dirais pour la Ligue 1, dingue. C'est-à-dire que c'est une équipe qui doit, elle, être absolument dans les roues du Paris Saint-Germain, qui devrait être comme l'OM, là, au classement. Mais qui n'y arrive quasiment pas
en Coupe d'Europe.
Et qui devrait peut-être y arriver.
Qui devrait y arriver.
Ils ont un effectif pour la Ligue 1 canon.
Qui va probablement remonter, qui va se situer autour de la troisième place assez vite. La seule chose un peu folle dans cette équipe, c'est ce qu'elle fait en Coupe d'Europe, c'est cette défaite contre Ferencváros. Bon, ils ont encore le temps.
Oui, ils avaient gagné le premier match. Hein.
Voilà, ils ont encore le temps de s'améliorer et de sortir de la poule. Bon, l'année dernière, ça les a pas empêchés de perdre contre Braga et derrière de finir troisième. Donc, je crois que sur la longueur en championnat avec cet effectif, ils devraient finir très haut, mais ponctuellement, ça reste une équipe qui peut perdre contre eux un peu n'importe qui si tu les bouscules très fort, si tu leur mets un peu le feu, comme par exemple en Coupe d'Europe, sur un one shot comme ça, ils peuvent se prendre une banane.
Comme Lens.
À trop se la raconter. Oui, s'ils tombent contre Lens, c'est sûr qu'ils vont se faire bousculer. Mais même sur un match comme ça, l'équipe en face le joue à fond, les bouscule, parce que c'est des mecs qui s'endorment assez vite, qui sont un peu trop dans le confort, un peu trop sûrs qu'ils sont plus forts. Y a pas, c'est comme d'hab à Monaco, il n'y a pas la grosse pression autour, ils sont peinards. On a regardé le match cet après-midi, très franchement, ça a été vite ennuyeux parce que bon, en plus, ils ont marqué vite et Nantes n'était pas dans le coup. Donc, en très peu de temps, il y a eu 2-0, puis 3-0, donc c'était bouclé. Le stade était vide, on s'est vite fait chier, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, mais on sait très bien que sur la durée et sur la longueur du championnat, ça va être suffisant pour arriver.
Tu vois le 11 de Monaco, Nubel, Vanderson, Disasi, Badiachil, Caio Henrique, Crépin Diata, Fofana, Camara, Golovin, Mbolo, Ben Yedder, et que tu fais rentrer Folland, Minamino, Maripane, en Ligue 1, excuse-moi, là, t'es dans le top hors PSG, t'es au-dessus, à mon avis, t'es au-dessus de l'effectif de l'OM, potentiellement.
Hein. Ah. Bon, à suivre, en tout cas, ils jouent contre Trabzonspor, ils reçoivent Trabzonspor en Coupe d'Europe cette semaine. Merci Raphaël.
Merci à vous.
Salut, bonne soirée. Un mot de Toulouse, les gars. Là, il y a eu des incidents avec les supporters de Montpellier. Cet après-midi là, alors je sais pas s'il y a un passif à vrai dire là entre Toulousains et Montpellierains.
Le derby de l'Occitanie,
voilà. C'est pas un derby.
Non. C'est tellement éloigné, mais c'est la même région.
Le derby de Montpellier, c'est Nîmes, c'est pas.
Ouais, bien sûr.
FL est là. Bonsoir.
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 Bonsoir l'équipe.
Supporter de Toulouse. T'étais au stade?
Bien sûr.
Bon, t'as passé de belles après-midi là. C'était un match un peu fou.
Oui, ça fait plaisir, enfin du spectacle.
Bon, sauf quand il y a les gaz lacrymogènes qui faut arrêter le match, mais bon.
Ouais, mais je préfère parler terrain, moi.
Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Lorient, parce que c'est la hype du moment, là. Mais Toulouse, mine de rien, a fait son parcours. Toulouse est 12e, alors c'est pas extraordinaire en termes de classement non plus. Il y a comme ça une espèce de sûreté, malgré tout, qui se dégage de l'équipe, non?
Ouais. Bon, après, c'était quand même un peu compliqué. On prenait beaucoup de buts et on marquait pas beaucoup. Là, ça fait plaisir de marquer autant, quoi. Il y a eu des beaux buts en plus. Et puis, quel joueur, Vandenboomen, quelle passe. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, tout à fait.
Vandenboomen qui était censé partir.
Donc KDB, À Toulouse, ouais, on avait DB. Hein.
Bah, disons que c'est un peu le cas Fofana à Lens, Van den Boomen. C'est-à-dire que l'équipe, enfin, en tout cas, elle était très dépendante de Van den Boomen en statistiques, elle l'est toujours. Ouais. Et c'est vrai que le fait qu'il soit resté change un peu la donne. Après, le jeu, moi j'avais un doute en début de saison sur le passage de Ligue 2 en Ligue 1, parce que c'est une équipe qui dominait, qui était très très forte en Ligue 2, justement dans sa capacité à faire du jeu. Et je savais pas si elle allait réussir à maintenir ça. Et en fait, Montagnier veut maintenir ça, ce qui explique qu'il gagne, il perd. Ouais, il est 12e seulement, c'est pas comme Lorient. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Tu montes de Ligue 2 en Ligue 1, t'as pas forcément tous les joueurs pour être à la hauteur de ce jeu ambitieux. Mais en tout cas, ça joue. Et tu vois, ils sont menés aujourd'hui, ils reviennent, ils jouent et ils marquent beaucoup de buts.
Voilà. Bon ben voilà pour Toulouse, FL, merci de ton petit coup de fil. J'ai pas mal d'actu du jour à partager, les gars, après la Ligue 1. On reparlera Ligue 1 demain, hein, bien sûr. Enfin, il y a des sujets qui sont là connexes à la Ligue 1. Ah oui, alors, j'aimerais quand même démarrer par cette histoire de stade là, enfin de d'écran géant, parce que les choses se bousculent un peu ce soir.
Ça, c'est une vraie décision politique là, attention là.
Donc le maire de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic.
Ça veut dire qu'en décembre, à Bordeaux, tu n'auras ni sapin de Noël, ni écran géant pour regarder le foot.
Et écran géant avec le froid qu'il fait à ce moment-là, ouais.
Mais c'est pour ça. Alors, c'est le froid. Alors, c'est Pierre Urmic, hein, tout à l'heure, dans Bartoli Time, qui était là et qui a dit qu'il n'y aurait pas d'écran géant à Bordeaux. Il a même ajouté, à titre personnel, mon poste de télévision ne sera pas allumé un quart de seconde pour regarder cette manifestation extravagante.
On attend forcément Grenoble aussi, non?
À aucun moment, mon poste ne sera allumé pour regarder ce genre de pitrerie, a dit Urmic.
On attend Grenoble, c'est tombé.
Ça devrait tomber.
Strasbourg, ça va tomber.
C'est tombé déjà.
C'est tombé Strasbourg. Ben c'est normal. Tombé. C'est normal.
Les villes écolos, c'est vrai, là, ce soir.
Normal, c'est normal.
Et Lille, c'est tombé ce soir.
C'est normal.
Martin Aubry a dit il n'y aura pas d'écran géant. Alors, il y a quand même un truc un peu démagogue dans tout ça, parce qu'un écran géant, fin novembre, début décembre, quand il fait 0 degré, oui, pas convaincu que c'est hyper rentable.
Non, mais à
et
part
qu'il y ait beaucoup de monde qui y aille.
Tu peux l'envisager éventuellement pour
donc,
la France.
En fait, bon. Peut-être que la vraie raison, c'est de se dire, on va pas monter les écrans géants pour personne. Et donc on dira,
la décision, c'est de faire croire qu'on prend des décisions politiques.
Ça fait bien
fortes.
De dire que c'est pour l'écologie, voilà, ou pour les droits de l'homme.
Voilà, ça donne peut-être l'impression qu'on prend des décisions vraiment très très importantes et très très fortes quand on est dans ce camp-là politique, vraiment. Très important.
Bah, attendons qu'une ville de droite, Daniel, le décide, ça peut arriver.
Ça voudra pas dire qu'ils sont plus intelligents.
Alors, j'aimerais maintenant parler de Florentino Pérez, parce que Florentino Pérez a prononcé aujourd'hui un discours important où il a parlé de la Super League. C'était une assemblée du Real. Alors, il y a deux sujets. Il a mis un petit tir au PSG, mais sur la Super League, il dit. En fait, il a comparé les confrontations entre grands clubs européens aux confrontations au tennis. Nadal, Federer, Djokovic et tout. Et donc, il dit, Nadal, Djokovic et Federer, ils sont chacun joués une quarantaine de fois. Ben, nous, par exemple, contre Liverpool, on les a joués 9 fois en 67 ans. Chelsea, 4 fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Et les deux dernières fois, c'est les dernières années. Donc, il faut plus de ces matchs-là, dit Florentino Pérez. C'est un argument qu'il a développé aujourd'hui. Il dit, la Super League est un bon moyen d'éviter de voir le foot perdre de suprématie face aux autres sports, dit-il. Alors, l'argument des Federer Nadal ou des Djoko machin, on pourrait le retourner en lui disant, ouais, mais parfois, on en a marre de voir tout le temps Djoko Nadal. On sait rien.
Honnêtement, je m'attendais pas à ce que tu parles de ça là. Ça mérite, l'analyse de Florentino Pérez et le discours qui
était aujourd'hui
à l'Assemblée Générale du club mérite un peu plus qu'aux 3 minutes en fin d'émission parce que c'est du très haut niveau. On est là face à un président qui est d'une autre dimension que ceux qu'on a chez nous quand même. Il y a de vrais arguments, même quand il fait cette analogie avec le tennis, on peut être pour ou contre, mais il y a de vrais questionnements sur ce qu'est en train de devenir le football, sur les réformes que prépare l'UEFA. Il défend certes la vision de la Super League sans donner d'indication sur la réelle version qu'il veut, puisqu'il y a eu une marge énorme entre la Ligue fermée d'il y a 2 ans et les évolutions aujourd'hui qui ne seraient plus du tout ça. Néanmoins, il y a des arguments qui s'entendent et qui sont incontestables dans ce qu'il dit. On peut pas, comme ça, développer ça là, vite fait, tu vois. Il faut qu'on prenne le temps d'en débattre un soir.
Top, Jean-Michel Aulas vient de réagir. Twitter, excusez-moi. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d'équipe ni des options du staff. Il faut travailler et gagner. Enfin, vendredi, l'OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts, dit Jean-Michel Aulas. Voilà. Il y a un bashing lyonnais. Donc.
Un tweet pour gagner du temps. voilà. Gagner un peu de temps. Non, juste un mot sur Florent Théo Pérez. Il y a quand même un truc, il faut tout entendre, il faut tout analyser, mais comparer les sports, moi je trouve que c'est déjà un truc très particulier, justement.
Oui, moi, j'aime
ce qui
pas
fait la spécificité du foot fait justement que c'est, ça ressemble. C'est comparer l'histoire du tennis et la culture du tennis et de ces rencontres fréquentes, effectivement, et récurrentes entre des champions. Ben oui, très bien, mais c'est pas l'histoire du foot. Ça veut pas dire qu'on doit pas regarder ce qu'il faut faire pour améliorer l'attractivité du foot. Mais moi, le fait que les chiffres qui ne m'ont pas choqué, les chiffres qu'il a donné sur le nombre de rencontres entre Liverpool et le Real, non, ça ne me choque pas. C'est justement cette rareté-là qu'on recherche. Après, ça, c'est une partie du débat. Après, on pourra en reparler effectivement sur les différentes formules qu'il préconise ou pas. Mais en tout cas, sur ça, pour moi, c'est pas un argument le fait de prendre des risques comme ça.
Il y en a beaucoup. Oui, il y a d'autres choses. Bon, alors, il reste 1:30, donc on n'a pas le temps d'aller plus loin. Je vous raconte juste qu'il a mis un petit tir à Nasser Al-Relaifi en disant le président de l'ECA, il ne citait pas Al-Relaifi qui est président de l'ESA, a dit que Madrid a peur de la compétition. Il faut quand même rappeler à ce président...
Il a peur de la concurrence. Enfin, déjà, quelle sortie de Nasser Al-Relaifi. Oui. Mais comment être plus grotesque que ça? Mais comment on peut être aussi grotesque?
Donc Pérez dit, il faut rappeler au président de l'ECA qui est le Real Madrid. Nous sommes les rois d'Europe, dit
Florent. Il a raison. Pérez. Comment Nasser Al-Relaifi peut dire ça? Mon Dieu.
Allez, deux petites infos pour conclure. Cristiano Ronaldo n'a pas joué le derby de Manchester où United s'est fait éclater par City 6-3.
Ah oui, j'ai regardé ça cet après-midi.
Et Ten Hag dit...
Les absents n'ont pas toujours tort.
Alors non, mais justement, Ten Hag dit, mais pourquoi, on lui demande pourquoi vous ne l'avez pas fait rentrer. Il dit, écoutez, par respect pour son immense carrière...
En gros, voilà.
C'est pas mal comme explication.
C'est bon, Ten Hag.
Et puis, petite info, foot africain, vous savez que la CAF a retiré l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, qui n'est pas prête.
Et l'Algérie était candidate.
L'Algérie est candidate.
Ouais, j'ai vu ça.
Vraisemblablement, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal pourraient également être candidats pour recevoir
chacun
chez soi.
Ouais, d'accord, il n'y a pas d'alliance entre les pays.
Oui, ça ne se fait plus trop en Afrique, les alliances.
D'accord. Entre Maroc et Algérie, ça va être un peu compliqué en ce moment.
Oui, là, c'est un peu chaud.
Voilà.
Effectivement.
Il y a des petits soucis.
Demain, l'after sera là à 20h, bien sûr, avec les drôles de dames, et puis la Ligue 1 à 22h, et puis la Coupe d'Europe cette semaine. On va se régaler. Bonne nuit à tous, et à demain soir, 20h, et puis le RMC Poker Show dans quelques instants, avec Moundir qui a brillé de mille feux, paraît-il, à Bratislava.
Grand RMC Poker Show, on se retrouve dans 5 minutes. Moundir, grosse performance, la plus belle de sa carrière. Quand même, il s'est retrouvé à la table avec des pros de très haut niveau. Il a fait 4e d'un gros tournoi.
Très bien, c'est tout de suite sur RMC.
Il est en transe, je vous le dis tout de suite, il est en transe.
RMC, l'after foot.